l'ambassadeur de l'Allemagne. Ambassadeur Biondino, vous avez la parole.
Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much for your very enlightening introductory remarks.
Merci beaucoup pour ces remarques d'introduction très utiles avant d'entrer dans la question que nous sommes censés aborder aujourd'hui. Permettez-moi de revenir sur ce que vous, Monsieur le Président, avez esquissé au début de notre discussion lorsque vous avez parlé des quatre approches de la définition. Le deuxième élément que vous avez mentionné, c'était l'approche cumulative. Et une partie de cette approche cumulative, comme vous l'avez mentionné, porte sur l'interaction, l'interface homme-machine. Et la troisième catégorie, l'approche de la responsabilité qui s'est penchée sur la possibilité pour l'homme de perdre le contrôle sur la machine. Donc je pense que ceci est très important pour mieux comprendre ce que sont les salas et quelle est l'interaction entre l'homme et la machine, mais je pense que nous avons aussi progressé vers une définition parce que bien sûr, au moins sur le plan national, nous sommes arrivés à la conclusion qu'une approche purement technique de la définition ne nous permettrait peut-être pas d'aller très loin étant donné que nous ne savons pas quelles sont ces machines finalement. Mais nous savons quel est le contrôle humain que nous voudrons avoir sur le déploiement de ces machines. Donc merci de nous donner la possibilité dès à présent de traiter cet aspect très important des salas, notamment pour ce qui est de notre compréhension de ces questions, mais aussi pour nous rapprocher d'une définition de travail. Permettez-moi de commencer par des considérations générales. Selon nous, seules les armes qui fonctionnent dans le respect du droit humanitaire international sont des armes acceptables dans la guerre. Ceci est sans doute largement accepté, mais ceci ne peut être assuré que tant que les humains ne maintiennent un contrôle suffisant, au moins sur les fonctions critiques de ces armes qu'ils utilisent, pour assurer le respect du droit humanitaire international. Dans ce contexte, nous soulignons l'importance de la mise à examen des armes comme le prescrit le droit humanitaire international. Ceci rend nécessaire le développement ultérieur de l'interaction homme-machine déjà existante, ou plutôt de la coopération, afin de trouver l'équilibre entre les points faibles des uns et des autres. L'être humain doit maintenir la responsabilité essentielle, et c'est l'être humain qui doit prendre les décisions et coordonner les processus qui pourraient être mieux exécutés par les composantes d'intelligence artificielle des armes. Le minimum indispensable de la participation humaine, surtout pour les fonctions critiques des armes, ne doit pas être remplacé par une prise de décision contrôlée par la machine. Et quels sont selon nous ensuite les éléments de l'implication humaine pour le cycle de vie des armes autonomes, donc la mise au point, la mise à l'essai et le déploiement. Il y aura plusieurs personnes participant à différentes mesures, à différentes phases de la mise au point et du fonctionnement des armes, mais l'aspect humain reste essentiel. Et ceci offre une multitude de possibilités concrètes pour l'interaction homme-machine. Les exemples de cette interaction sont par exemple les suivants, les équipes de développeurs de logiciels qui créent ensemble les algorithmes. Ceci, bien sûr, laisse entendre que lorsque les algorithmes seront créés, les valeurs nécessaires pour le déploiement de ces armes devront être saisies dans ces algorithmes. Ensuite, nous avons les experts techniques qui forme, entraîne le logiciel. Donc, encore une fois, on a besoin d'une réaction humaine dans l'interaction homme-machine. Ensuite, nous avons le troisième élément, les ingénieurs qui sont responsables de l'équipement, du matériel, de l'intégration de ces machines. Et enfin, et non des moindres, il y a des décisions politiques pour la décision des passations de marché pour savoir quel est le genre de machine que l'on veut acquérir. Et ensuite, dans la phase opérationnelle du déploiement, nous avons bien sûr les responsables des renseignements qui doivent soumettre des informations sur les cibles prises par les machines. Et un commandant doit donner l'ordre quant au déploiement du système. Et la dernière phase est bien sûr celle du personnel militaire qui active et surveille potentiellement le fonctionnement des armes. Donc, ce que nous voulons dire à présent, c'est qu'il y a différents niveaux d'interaction entre l'homme et la machine, pour lesquels nous devons toujours